Bonsoir, 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 et à vous aussi, je vous souhaite une bonne année en ce 2 janvier 2022. Ça sonne, hein? Ça m'enchante. J'espère que vous aussi, parce que je vais vous la resservir le 22. Ah ben non, ce sera un samedi. Alors, nous ne serons pas ensemble. Encore mieux, je vous la resservirai le 2 février, ça fera le 2-2-2022. Ah non, ça sera un mardi. Alors encore mieux, le 22 février, ça c'est topissime, le 22-2-2022. Oh non, c'est encore un mardi. Bon bah tant pis. Je me souviens à propos de 2, de la naissance des produits 2 en 1. Avant, on achetait un produit pour faire une action et un autre produit pour en faire une autre. Par exemple, un shampoing pour se laver les cheveux et du démêlant pour les démêler, du café pour faire du café et du lait en poudre pour reconstituer du lait. Puis est arrivé le 2 en 1, shampoing et démêlant, café et lait. Vous prendrez une goutte de lait dans votre café? Non merci. Eh ben tant pis pour vous, le lait est déjà dans la boîte avec le café. On peut enlever les grains de poudre de lait qui sont blancs, mélangés aux grains de poudre de café qui sont noirs. Si on a de très bons yeux, une très fine pince, beaucoup d'adresse, du calme, une petite heure devant soi. Mais dans le shampoing démêlant, allez savoir qui démêle et qui lave. Ça ne se voit pas, c'est tout mélangé et homogène en même temps. C'est curieux d'ailleurs ce 2 en 1. Comment ça marche puisqu'ils ne font pas la même chose? Il y a un petit chef d'orchestre dans la bouteille qui dit « Allez shampoing, c'est à toi de jouer !»« Ah non, le démêlant, tu ne bouges pas. Tu attends ton tour. Tu joueras tout à l'heure, après le rinçage. » Quand même, ce 2 en 1, vous y croyez, vous? C'est pas logique.
Moi, quand on additionne deux chiffres impairs, ça fait toujours un nombre pair. Merci de répondre à ma question.
Bonsoir Elliot, et merci pour l'info. Aurélie Jean, vous êtes docteur en sciences, entrepreneur, vous vous occupez des algorithmes, et d'ailleurs, votre dernier livre s'appelle « Les algorithmes font-ils la loi ?» aux éditions de l'Observatoire. Alors d'abord, a-t-il raison peut-être Elliot ?
Oui, Elliot a raison. Elliot, tu as raison sur ce que tu dis, à savoir que lorsqu'on additionne deux chiffres impairs, on obtient toujours un chiffre pair. Mais pourquoi ? Donc, je vais essayer de répondre à la question. Tout d'abord, on peut dire qu'un nombre impair, c'est un nombre pair auquel tu ajoutes le chiffre 1, Elliot. On est d'accord. Tu peux aussi dire que ce nombre impair auquel tu soustrais 1 est aussi toujours un nombre pair. Je donne un exemple. 5 est impair. Ça équivaut à 4 plus 1. 4 est pair. Tu aurais pu aussi dire que 5 moins 1, qui vaut 4, est un, 4 est un nombre pair. Donc lorsqu'on additionne 1 ou lorsqu'on soustrait 1 à un nombre impair, on a toujours un nombre pair. Pour l'instant, c'est clair. On prend un autre exemple, si on prend 275, ça équivaut à 274 qui est un nombre pair, plus 1, et 274 est un nombre pair. On peut aussi enlever 1 à 275, on obtient 274 qui est un nombre pair. Donc revenons à notre problème, Elliot. Quand tu additionnes deux nombres pairs, cela revient à additionner chaque nombre en enlevant 1 à chacun, puis en additionnant 2. Chaque nombre auquel tu enlèves 1 donne un nombre pair. Donc au final, tu additionnes deux nombres pairs auxquels tu ajoutes ensuite le chiffre 2 qui est aussi un nombre pair. Par cette somme de deux nombres pairs, tu obtiens donc un nombre pair à la fin. Pour conclure et pour répondre à ta question, Elliot, tu obtiens toujours un nombre pair quand tu additionnes deux nombres impairs.
C'est drôle quand même.
Et c'est mon raisonnement.
Mais c'est ça qui est intéressant. C'est le chemin que vous avez pris, Aurélie Jean, pour répondre à Elliot.
Exactement. De dire qu'un nombre impair, c'est toujours un nombre pair, plus 1 ou moins 1, et que donc lorsqu'on additionne deux nombres impairs, on va en fait additionner deux nombres pairs plus 2, systématiquement.
Alors moi je vais me permettre, c'est pas mon rôle, mais pour une fois, je vais me permettre une mini question.
Je vous en prie.
Est-ce que finalement, il n'y a pas de mystère dans votre domaine? Il y a des explications, toujours?
Alors on va dire ça autrement. Il y a des explications pour beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes, pas dans les mathématiques strictement, mais dans les problèmes qu'on doit résoudre, les questions auxquelles on doit répondre, parce qu'on a des incertitudes sur notre connaissance du monde, du phénomène à modéliser mathématiquement, ou parfois même du problème à formuler. Parce que ne serait-ce que comment on pose la question, Elliot a très bien posé sa question, par exemple, mais parfois les questions sont un peu bancales, on ne sait pas trop y répondre parce que la formulation du problème est difficile.
Avec Aurélie Jean, les mathématiques sont vraiment amusants ou amusantes. C'est féminin ou masculin? Je ne sais pas, vous allez me le dire. Alors vous écoutez Les Petits Bateaux, une émission où les enfants posent des questions et où des savants répondent. Ce soir, Song Fannekam a répondu à la question « Quelle est la première ligne de bus qui a été créée à Paris ?» Françoise Barbegal a répondu à la question « Comment les hommes ont-ils inventé la peinture ?» Et Pierre Bergougnot a répondu à « Comment le langage a-t-il évolué au fil du temps ?» Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Je m'appelle Louise, j'ai 5 ans et demi. Je voudrais savoir comment les écureuils font pour retrouver leur noisette qu'ils enterrent. Merci.
Bonjour Louis, quelle bonne question. Peut-être qu'ils ne les retrouvent pas, docteur François Moutou.
Écoute Louis, les écureuils, on pense qu'ils font des provisions pour la mauvaise saison, mais on pense en fait qu'ils oublient un peu aussi quelquefois les noisettes qu'ils ont cachées, ou les noix, ou les graines qu'ils ont enterrées. Et en fait, comme simplement ils se baladent souvent sur le même petit morceau de forêt, le même jardin, ils creusent un peu partout et ils finissent peut-être un peu par hasard par retrouver une partie de ce qu'ils ont caché. Mais l'intérêt, c'est que ce qu'ils ont oublié, si c'est bien enterré, ça peut germer.
On il rend service à l'arbre.
Que les écureuils, finalement, eh bien, ils font aussi du bien à la forêt parce que ils vont permettre, en déplaçant les graines, de leur trouver un petit coin tranquille. Et si lui l'oublie, eh bien, la graine, elle, n'oublie pas de germer. Et ça peut refaire un arbre qui, plus tard, pourra nourrir les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de l'écureuil qui a enterré la première graine.
Bien fait. Est-ce que l'écureuil a un odorat, docteur François Moutou?
Alors, c'est sûr que l'écureuil a un odorat. Mais c'est vrai aussi qu'il marche à vue. C'est une espèce diurne. C'est pas tellement fréquent, nos mammifères diurnes dans nos campagnes, dans nos forêts. La plupart sont nocturnes. L'écureuil, lui, quand il fait nuit, il va se coucher dans son petit nid. Il a un nid dans les branches. Qui le fait d'ailleurs, c'est lui qui le fait. Il est souvent d'ailleurs près du tronc. Il est rarement au bout des branches. Et donc, il a à la fois une bonne vue pour sauter entre les branches, pas se tromper dans l'évaluation des distances, mais également, il est capable de reconnaître les graines qui sont mûres, qui sont pas mûres. Et on pense que une partie de ce qu'il retrouve en creusant, il le retrouve justement à l'odorat. Il creuse et il sent que soit son odorat lui, parce qu'il y est passé il y a pas très longtemps, sur l'odeur de la plante, de la graine qu'il a enterrée et qu'il va retrouver comme ça.
Parce que la noisette dans sa coquille, ça ne doit peut-être pas sentir énormément.
Non, mais d'abord, il n'enterre pas que des noisettes. Il enterre aussi parfois des champignons, il enterre un certain nombre de plantes, de végétaux qu'il a ramassés. Et donc ça, on sait qu'il a un peu d'odorat pour le retrouver. Et il faut penser que l'écureuil, c'est vrai, il enterre par terre, ce qui veut bien dire qu'il est arboricole, certes, mais en fait, il est souvent par terre. Et il passe une bonne partie de sa vie à se balader au niveau du sol et pas uniquement dans les arbres.
Ah, sur la terre, moi je pensais qu'il vivait que là-haut.
Non. Et toutes les cachettes qu'il utilise pour cacher ses noisettes et autres petites graines, c'est bien au niveau du sol, près des souches, sous la mousse. Et on voit souvent un écureuil se balader par terre.
C'est vrai. Et l'écureuil, l'hiver, il est dehors, hein, il hiberne pas.
Voilà, alors quand il fait vraiment très très froid, il a son nid bien calfeutré avec des feuilles, avec un peu de mousse pour ne pas avoir froid. Mais il ne peut pas tenir très longtemps parce qu'il a besoin de se nourrir un peu régulièrement. Pour tenir justement, et surtout quand il fait froid, pour dépenser des calories. Mais donc ce n'est pas du tout un hibernant. Par contre, sa cousine, la marmotte, puisque la marmotte est un écureuil finalement, un écureuil terrestre, mais elle, depuis le mois d'octobre, elle dort tranquille sous la neige, dans les montagnes, dans nos Alpes, et elle va attendre le printemps, au mois d'avril, pour ressortir, voir ce qui se passe dehors. Les écureuils, ils mangent peut-être plus que les noisettes, les graines des conifères, des pommes de pin.
Et
quand on regarde les pignons, quand on regarde une pomme de pin, à la base de chaque écaille, il y a une petite graine. Et c'est ça que l'écureuil va manger. Et c'est amusant de voir un écureuil dans un pin cueillir. Alors, il s'accroche par les pieds, il est pendu en suspension. Avec ses pattes avant et ses dents, il cueille la pomme de pin. Il se remet dans le bon sens sur la branche, parfois tout au bout du rameau. Et dans ses pattes antérieures, assis sur ses fesses, il tourne la noisette, pomme de pin dans ses petites mains. Et il prend les petites écailles une par une. Et il mange les graines une par une. Alors, il tombe en permanence en dessous de lui des écailles, des petits bouts de végétation. Ça fait du bruit parfois, on l'entend très bien. Et quand on le retrouve, si on ne fait pas de bruit, on peut passer une heure à regarder un écureuil faire son déjeuner. C'est assez rigolo à voir.
C'est vrai que l'écureuil fait pas mal de bruit et qu'il est mignon. Le docteur François Moutou donc, est docteur vétérinaire. Il a travaillé sur diverses maladies communes aux humains et aux animaux pour mieux les comprendre et les prévenir. Il est mammalogiste, vous savez ce que ça veut dire? Il s'occupe des mammifères. Il est président d'honneur de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. quoi de mieux que les Doobie Brothers pour vous faire oublier que c'est la fin des vacances?
Les petits bateaux sur France Inter.
Pierre Bergugno a écrit des dizaines de livres. Vous trouverez les références des plus récents sur le site des Petits Bateaux. Il est écrivain, enseignant, agrégé de lettres modernes, officier dans l'ordre des arts et des lettres. Ben dites-le, vous.
Bonjour, je m'appelle Elia et je voudrais savoir comment le langage au fil du temps a évolué. Merci de me répondre. Au revoir.
Pierre Bergugno, le langage, c'est une de vos spécialités, vous êtes professeur. Alors pourquoi a-t-il évolué au fil du temps, vous demande Elia.
Eh bien, tout change continuellement, et le langage comme le restant. C'est un trésor, un bien commun que le langage, mais chacun des individus qui l'utilisent y apporte sa touche, y introduit des variations. Alors, je vais prendre un exemple qui t'est familier, le français que tu parles, vient du latin. Et en l'espace d'à peu près 1000 ans, 1500 ans, cette langue que nous avaient apportée les conquérants de Rome est devenue, dans nos bouches gauloises, ce qu'on appelle le français. Tu as sans doute remarqué que d'une région à l'autre, on ne parle pas tout à fait de la même façon. Je ne sais pas d'où tu es originaire, mais par exemple, les gens de Paris et des environs ont une certaine façon de parler qui n'est pas la mienne, parce que je suis originaire du sud-ouest. Alors je vais te donner un exemple. Lorsqu'ils prononcent des « que » ou des « te », qu'on appelle des consonnes dentales, ils glissent juste après un petit « i ». Ils montent dans leur voiture. Ils font de la peinture. Alors que chez moi, on dit de la peinture ou la voiture. En revanche, dans le sud-ouest, on fait ce qu'on appelle la désanalisation. Tu vas voir. Au lieu de dire la peinture, on dit de la peinture. Et on entend bien le « i » qu'il y avait à l'origine, qui revient. Un dernier exemple qui est historique et très, très connu. Lorsque le roi de France, Louis XVIII, le frère du roi Louis XVI, qui avait été décapité sous la Révolution, est rentré dans sa patrie après avoir passé 25 ans à l'étranger. En Angleterre, il a réuni ce qu'on appelle les chambres, l'équivalent de la Chambre des députés et du Sénat. Et il a prononcé la formule rituelle, le roué, c'est moué. Et naturellement, ça a fait sourire l'assistance.
Moi aussi, ça m'aurait fait rire.
Et le roi n'a pas trop bien compris ce qui se passait. Et un de ses conseillers lui a dit, sire, majesté, je ne sais trop, désormais, le R est grasseillé. Celui que nous utilisons, et non plus roulé. Et ce qu'on appelle la diphtongue « oué » est devenu « oua ». Ce qui fait qu'on ne dit plus « le roué »,« moué », »,« toué », »,« le boué », mais « moi », »,« le roi », »,« toi ». Et on a compris que ce qui s'était passé, c'est que l'aristocratie avait été évincée, écartée du pouvoir, guillotinée parfois, et que c'était la prononciation des bourgeois, c'est-à-dire des gens du bourg, de la ville, des Parisiens, eh bien, qui avaient prévalu.
C'est drôlement intéressant, Pierre Bergugno, parce que cette évolution du langage marque bien sûr le temps, marque la région, et c'est aussi un marqueur social.
Et politique.
Et l'humour. Moi, j'ai rigolé quand vous avez dit le roué, c'est moué.
Ce en quoi, Madame Brienne, vous êtes de Paris. Et vous trouvez plaisante, une certaine façon de parler qui était celle de la haute noblesse jusqu'à la fin de l'Ancien Régime et dont on retrouve la trace dans le parler de la paysannerie de Bourgogne qui vivait en étroite symbiose avec l'aristocratie locale. Les paysans bourguignons continuent à rouler les airs. Mais au lieu de sourire d'eux, il faut se rappeler qu'à un certain moment, c'était le parler de la noblesse avec laquelle ils vivaient en symbiose. La noblesse et la paysannerie ne peuvent aller l'une sans l'autre, puisque la noblesse vit de l'exploitation du travail des paysans.
Et oui, Pierre Bergugno a raison, je suis de Paris, et le Parisien est facilement moqueur, mais on est le Parisien, on se moque aussi de lui, et ce n'est que justice. Moi, je me souviens le nombre de fois où on m'a reproché de dire lundi, et on me disait, mais ça, on ne dit pas lundi, on devrait dire lundi. Et ça, les Parisiens, vous ne savez pas le dire lundi. D'ailleurs, je me donne beaucoup de mal pour un résultat assez médiocre. Le dernier livre de Pierre Bergugno s'appelle « Le sens des mots », et puis vous pouvez également lire la fin de son journal, ça s'appelle « Carnet de notes », et il s'agit des années 2016, juste des années 2016 jusqu'en 2020.
Je m'appelle Romane, j'ai 5 ans, et j'aimerais savoir pourquoi les hommes ont inventé la peinture. Merci et au revoir.
Alors, nous avons proposé, Romane, ta question à une historienne de l'art qui a écrit beaucoup de livres et qui est créatrice de Coretta, dont nous reparlerons. Pourquoi les hommes ont inventé la peinture, demande Romane.
Eh bien, en fait, Romane, on n'en sait rien exactement. On n'en sait rien parce qu'ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas laissé de témoignages, ils n'ont pas raconté, tu vois. Les premiers qui ont peint, c'était dans les grottes, c'était les hommes préhistoriques. Et on peut imaginer que certains avaient en mémoire les animaux qu'ils avaient vus passer, qu'ils voulaient chasser, qu'ils espéraient chasser, parce que s'ils ne pouvaient pas les attraper, évidemment, ils n'auraient pas de quoi manger. Alors on peut penser que c'était une manière d'attraper ces animaux. Comme si le fait d'avoir des images sous les yeux, c'était un petit peu comme une garantie, enfin en tout cas un espoir, de les laisser approcher et puis ensuite de les avoir tout près de soi. Ça peut être une chose. En tout cas, ça n'était certainement pas pour décorer simplement, parce que on sait que ces peintures étaient souvent disposées dans des endroits pratiquement inaccessibles, au fond de gorges très étroites, etc. Donc, ils ne les avaient pas vraiment sous les yeux, mais ils avaient l'image de ces choses-là. Et puis, ensuite, si on observe un petit peu ce qui s'est passé au cours de l'histoire, eh bien, on se rend compte que les images étaient là, souvent pour remplacer des choses qu'on n'avait pas, ou bien des gens qui n'étaient plus là. Par exemple, des gens qui étaient morts, des gens qu'on aimait beaucoup et qui étaient partis en voyage. On voulait quand même conserver quelque chose. Alors, il y a une très belle histoire qu'un historien romain avait racontée, qui était Pline. Il disait que une jeune fille, Dibutade, qui était la fille d'un potier, voulait dire au revoir à son amoureux. Il allait partir le lendemain pour un très long voyage. Ça se passe à Corinthe. Et au moment où elle l'embrasse, elle voit l'ombre portée du jeune homme, puisqu'il avait simplement une lampe à huile qui les éclairait tous les deux, l'ombre portée se dessinait sur le mur. Alors, elle a l'idée de prendre un morceau de charbon, et puis elle suit, elle accompagne très très doucement sur le mur la silhouette de cette ombre. Et ce faisant, elle invente littéralement le premier dessin. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que un peu partout, on se rend compte que dessiner quelque chose, ça n'est pas seulement limiter, ça n'est pas refaire ce qui est déjà. C'est plutôt s'assurer qu'on va conserver une image parce qu'on aura perdu l'objet réel ou la présence d'une personne. C'est quand on manque de quelque chose. Max Ernst, qui était un grand peintre allemand, disait « Mais moi, je peins ce qui manque dans le monde ».
Françoise Barbegal a écrit « Comment regarder un tableau, apprendre à en croire ses yeux ».
Dis-moi ça qui vivait, dis-moi ça qui vivait, dis-moi ça qui passait, dis-moi ça qui passait.
ne voulez pas laisser moi vivre.
C'est Delgrès qui chante en créole des Caraïbes, choisi par Jean-Baptiste Audibert. Je vous rappelle le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des savants pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle William, j'ai 15 ans et j'aimerais savoir quelle est la première ligne de bus qui a été créée à Paris. Merci pour votre réponse, au revoir.
Bonsoir William, alors nous avons proposé ta question à Song Fancam, qui est responsable de l'identité visuelle et sonore à la RATP.
Bonjour William. Alors, tout dépend de ce qu'on considère par une ligne de bus.
Est-ce qu'il y avait des bus quand il y avait des voitures à cheval, en fait.
Exactement. On les appelait les omnibus. Les autobus, c'est vraiment les voitures motorisées telles qu'on connaît aujourd'hui. Alors, si on remonte à l'omnibus, on va aller très très loin. On va remonter à l'époque de Louis XIV. Donc, c'est Blaise Pascal qui a eu l'idée des carrosses, tractées donc forcément par des chevaux à cette époque, avec la monnaie de l'époque. Donc, il fallait payer 5 sols pour prendre le carrosse. C'était un carrosse collectif, alors il n'y avait pas beaucoup de place à bord, et c'était assez élitiste, c'était réservé plutôt à la grande bourgeoisie.
D'accord, donc ça voilà le premier bus, on va dire, pour répondre à William. Maintenant, la première ligne de bus, je pense qu'il pense à autobus.
Mm-hmm. Alors la première ligne de bus est arrivée vraiment en 1906, donc avec un véhicule motorisé. Le premier autobus mis en circulation était un Brier Schneider, qui s'inspirait beaucoup de ce qui se faisait à Londres, c'était des autobus à impérial. Mais alors, le confort était bien plus rustre que les bus d'aujourd'hui. Il faut imaginer que le conducteur n'était pas à l'intérieur du véhicule, il était à l'extérieur, sans fenêtre, et l'impérial était également ouverte sur l'extérieur, il n'y avait pas de fenêtre. Donc on était exposé au vent, aux intempéries.
Quand vous dites bus impérial, qu'est-ce que ça veut dire en fait ?
Alors un bus impérial, c'est un bus qui possède un étage.
D'accord.
Les autobus impérial ont été abandonnés à Paris assez rapidement, dès 1910, puisqu'il y a eu un accident assez grave. Un bus, plus il est en hauteur, plus
il verse facilement.
Plus il verse facilement. Donc, comme
surtout s'il est chargé.
Et surtout s'il est chargé, oui. Mmh. Donc on a vite abandonné l'idée de l'autobus impérial, même si on a essayé d'y revenir dans les années 70, puisqu'on a vu qu'à Londres ça fonctionnait assez bien, et les autobus impérial à Londres sont devenus des véritables monuments. Oui. On les connaît, leur image est connue dans le monde entier. On a essayé de le refaire à Paris, effectivement, dans les années 60-70, sur deux lignes, mais finalement ça n'a pas bien marché, pas pour les raisons qu'on croit. C'est qu'en fait, les arrêts à Paris étant assez rapprochés, les personnes qui prenaient l'autobus, notamment les personnes plus âgées, ne montaient pas à l'étage. Donc finalement, comme l'étage était sous-exploité, l'autobus impérial était définitivement abandonné. Par contre, en remplacement, dans les années 80, on a eu l'autobus articulé, qui permet, grâce à un soufflet d'articulation au milieu d'autobus,
d'en mettre deux.
D'en mettre quasiment deux.
Donc, la première ligne de bus, alors finalement, c'était laquelle ?
Donc la première ligne de bus, c'était la ligne AM, puisqu'en fait, les autobus étaient numérotés par les lettres de l'alphabet. Et ce n'est vraiment que dans les années...
Ça voulait dire quoi, AM ? Austerlitz, Maillot ?
Pas forcément, en fait, c'était dans l'ordre d'attribution. Les lignes d'autobus étaient nommées d'après les lettres de l'alphabet, mais quand on avait épuisé les 26 lettres de l'alphabet, il fallait recréer de nouveaux indices, donc c'est devenu AA, AB, AM, etc. D'accord.
Pour en savoir plus sur cette histoire de Blaise Pascal, inventeur des transports en commun, évoquée à l'instant par Son Femme de Lag, vous pouvez lire Son Femme de Cam, vous pouvez lire la fabuleuse histoire des transports parisiens d'Olivier Bernard. J'avais tellement besoin, après les annulations de trains de banlieue à 5h30 du matin sans prévenir, des bus qui passent pas, de lire un truc sympa sur les transports, que je me suis jetée sur ce livre. Donc, Olivier Bernard, dont je ne sais rien, a écrit ce pavé sur les transports parisiens. Les pages sont remplies comme un wagon de tramway à 7h, c'est dense, 7h le chiffre, c'est dense, il n'y a ni dessin ni photo, mais une multitude de petites et grandes informations plus amusantes les unes que les autres, même si on n'est pas parisien. Par exemple, il nous raconte que l'obélisque a voyagé pendant 7 ans pour arriver à Paris. Un bateau a été spécialement conçu pour transporter cette pauvre obélisque de 230 tonnes. Un bateau capable de naviguer sur l'Atlantique, sur la Méditerranée, de remonter la Seine et le Nil, capable de passer sous les ponts. L'obélisque de Louxor est arrivé à Paris le 23 décembre 1833. Une fois en place, un nouveau problème apparaît. Sur le socle de l'obélisque, on voit des babouins qui se lèvent et dressent leurs pattes, laissant joyeusement apparaître leur zizi. Exhibition qui choque la pudeur de l'époque. Le socle est envoyé au Louvre, où on peut toujours le voir d'ailleurs, pour être remplacé par un bloc de granit de Bretagne. La fabuleuse histoire des transports parisiens d'Olivier Bernard. Vous pouvez podcaster ces petits bateaux, tout simplement les réécouter sur franceinter.fr. Mathias Alléon, Marie-Claire Matoute, Marjorie Devoucou, Jean-Baptiste Audibert, Stéphane Combe, Noël Bréham. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30. À suivre Jérôme Garcin pour Un masque et la plume consacrés ce soir au cinéma.